J'avais à cœur de parler des choses du retour de Jésus, et puis Dieu m'a ramené vers un sujet que j'ai abordé la première année que j'étais ici, et depuis je ne l'avais pas retravaillé, j'ai reconsidéré encore ces choses. Ça ne touche pas directement au retour de Jésus, bien que ça fasse partie de cette doctrine qu'on appelle l'eschatologie, les choses du retour de Jésus, mais je crois que c'est quelque chose qui nous touche de près les uns les autres, forcément, elle nous touche tous. C'est la question de l'au-delà. Évidemment, nous sommes tous concernés. Et la question de ce qui vient après la vie. Et il y a deux choses qui viennent après la vie. Des choses qui sont communes à tous les hommes, sauf le cas exceptionnel d'Enoch, d'Élie et de Jésus. Mais quelque chose qui nous est commun à tous d'abord, tous, jusqu'à la génération de l'enlèvement, c'est la mort. Et la deuxième chose qui est commune à tous les hommes, c'est la résurrection. Parce que des fois, nous chrétiens, nous oublions que tous ressusciteront. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, les justes ressusciteront, mais les méchants aussi ressusciteront. Donc, nous sommes tous concernés par ces deux choses. La résurrection est ce qui va nous amener tous, chrétiens ou non chrétiens, sauvés ou non sauvés, dans la dimension d'éternité. D'accord ? Le temps ne compte plus. Mais ce qu'il y a maintenant entre la mort et la résurrection, c'est ce que, en théologie, on appelle la période intermédiaire, l'état intermédiaire, et qui nous concerne tous aussi. Que va-t-il donc se produire ? Qu'est-ce qui se produit pour les uns comme pour les autres entre cette période où on meurt et où Jésus nous ressuscitera ? On vit malgré tout dans l'espérance, comme l'apôtre Paul l'écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, que nous soyons conservés par l'enlèvement de l'Église. S'il plaît à Dieu de venir nous chercher sans que nous passions par la mort, ça ne nous dérange pas du tout. Maintenant, je pense que c'est bon de savoir ce que dit la Bible concernant ce sujet, afin que notre foi soit édifiée et surtout qu'on ne commence pas à partir dans toutes sortes d'élucubrations. Alors maintenant, comprenez mon approche. Mon approche, pendant ces deux soirées que nous allons avoir, je vais la qualifier ainsi, c'est une approche de généraliste. Je ne veux pas me présenter comme un spécialiste et je ne veux pas essayer de décortiquer le texte dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de considérations qui pourraient surtout nous amener dans beaucoup d'élucubrations. Je veux rester dans le cadre de la doctrine reçue, ce qu'on appelle la foi reçue par nos pères. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de déviances par rapport à ce domaine. Et je crois que depuis très longtemps, la doctrine des choses qui se passent entre la mort et la résurrection ont été établies. Et il y a un consensus de la plupart de tous les théologiens, étudiants de la parole, quelles que soient les dénominations, sur ce sujet. Alors nous allons ouvrir la Bible avec ce texte très particulier de Luc chapitre 16. Texte tellement particulier qu'on ne sait pas comment l'appeler. D'ailleurs, dans vos Bibles, il est, comme peut-être dans la mienne, écrit « L'homme riche et Lazare ». Il n'est pas écrit « parabole ». On dit que c'est une parabole. D'autres disent que c'est un enseignement. C'est un texte très particulier. Un texte très particulier. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, lisons-le. Luc 16, verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Et puis, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le Hadès, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Écoute, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « Mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité, ressuscité. » Mon premier point de cette étude, il faut en passer par là, essayer de comprendre ce qu'est la mort. Et pour comprendre ce qu'est la mort, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'être humain d'après la Bible. Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul nous enseigne que l'homme est composé de 3 parties, vous le savez, l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est une vérité que Paul nous enseigne dans les Thessaloniciens. Maintenant, il nous faut remonter à l'origine et nous tourner vers la Genèse pour comprendre comment ces choses se sont faites, ont été créées, afin d'en comprendre les relations entre elles et le mécanisme. Ce qui fait notre personnalité, c'est l'âme. L'âme, c'est notre personnalité. Et souvent, pour la résumer, on utilise l'acronyme VIE, V-I-E, volonté, intelligence, émotion. L'âme, la vie, ce que nous sommes. OK. Donc l'âme, c'est l'élément incontournable de notre être, c'est le centre précieux de notre vie qui exprime notre individualité, notre personnalité. Toutefois, l'âme n'est pas un élément constitutif de notre personne. Je vous invite à regarder, si vous le voulez, tout de suite dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et dans ce passage où il est question de la formation, la création de l'homme, nous découvrons que Dieu a créé d'abord le corps de l'homme en tirant l'homme de la poussière de la terre, des éléments de la terre, essentiellement du carbone et de l'eau. Mais jusque-là, ce n'était qu'un cadavre. Et Dieu a ensuite soufflé en l'homme, Adam c'est l'homme, le souffle de vie, le neshamah de Dieu, le principe de la vie. Et en recevant ce principe de la vie de la part de Dieu, la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante ou un être vivant. Nous comprenons donc que l'âme est le fruit de la rencontre, de la fusion entre ce que Dieu a fait avec sa main à partir de la poussière de la terre et le souffle de vie que Dieu a insufflé dans l'homme par ses narines. La rencontre du corps et du souffle de vie a produit l'âme. Elle n'est donc pas un élément constitutif, elle est un élément qui résulte de la rencontre des deux. Voilà pour ce que, rapidement, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste un point sur ce qu'est l'homme dans son être. Et maintenant, donc, qu'est-ce que la mort ? Il y a beaucoup de textes et concernant la mort, et il y en a un qui a beaucoup réfléchi sur la mort, c'est l'Ecclésiaste. Réfléchir sur la vie, réfléchir sur la mort, etc., etc. Et l'Ecclésiaste a écrit beaucoup de choses assez profondes. parfois un peu surprenante. Ecclésiaste 3.2, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et puis dans le fameux passage dans Ecclésiaste 12, où il s'adresse au jeune homme, et il lui dit de se réjouir de sa jeunesse, plus loin il lui dit aussi, mais souviens-toi de ton Créateur, et il lui rappelle qu'avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et là, nous avons l'explication de ce qu'est la mort. La mort, c'est quand un des deux ne fonctionne plus. Une image très simple que j'ai trouvée, elle n'est pas de mon fait, hein, c'est l'histoire, par exemple, de la lumière. Alors aujourd'hui, on n'a plus d'ampoule à filament, si vous en avez chez vous, ce n'est pas bien. Mais l'ampoule à filament, vous vous en souvenez encore, l'ampoule, le vide d'air et puis le filament. Mais vous avez l'ampoule, mais sans électricité, pas de lumière. Mais d'avoir l'électricité qui passe dans les fils, sans ampoule, ne produit pas non plus de lumière. Mais il faut les deux pour avoir la lumière. Maintenant, si l'un des deux vient à manquer, la lumière s'arrêtera. Le filament casse, la lumière s'arrête. On enlève l'électricité, la lumière s'arrête. Eh bien, c'est un peu pareil pour ce qui arrive de l'être humain lorsque vient le temps de sa mort. Soit la mort intervient parce que le corps s'affaiblit, la maladie, l'accident, et parfois pire. Il s'affaiblit au point de ne plus pouvoir réagir aux impulsions vivifiantes du souffle de vie. Le corps est devenu trop faible. Il n'y arrive plus. Ou alors, la mort vient lorsque, pour une raison ou une autre, le souffle de vie ne peut plus pénétrer dans le corps. La noyade ou l'asphyxie. Et là encore, c'est la mort. Et quand la mort intervient, soit parce que le corps s'épuise, soit parce que le souffle de vie ne peut plus circuler, que se passe-t-il? Bien, il va y avoir non pas destruction, il ne va pas y avoir perte irrémédiable, mais dissolution de la personne. Et nous allons voir que les éléments ne vont pas être perdus, mais ils vont évoluer. Le corps va évoluer d'une certaine manière, les souffles de vie, l'esprit que Dieu donne, et puis l'âme, elle aussi. Qu'advient-il du corps? Le corps appartient à la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que le corps est lié au cadre de la création. Et lorsque la mort vient, si le corps n'est pas détruit, il y a des fois où le corps est complètement détruit. Un accident grave, etc. Le corps peut être détruit. Mais si le corps n'est pas détruit, même s'il est très malade, ou même s'il est encore en pleine santé, le corps entame un processus de décomposition. Un processus, je ne suis pas médecin, donc je ne demandais pas tous les détails, mais vous savez qu'est-ce qu'il va y avoir principalement? Le corps va s'assécher. Et puis aussi, le corps va se brûler, une combustion lente de ces éléments, au point qu'au bout de quelques temps, bien sûr, il ne reste que de la poussière, sauf si le corps est conservé dans des zones sédimentaires qui vont peut-être préserver le corps, ou alors s'il est embaumé, comme les anciens le pratiquaient. Voilà pour le corps. Oui, Ecclésiaste 3.20 dit que tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et cette constatation concernant l'évolution du corps est universelle. C'est vrai pour le croyant comme pour l'incroyant. Sauf pour Enoch, pour Élie et surtout pour Jésus. Parce que nous nous rappelons ce que le psalmiste avait prophétisé, que le Seigneur, le Saint, ne verrait pas la corruption de son corps. Et donc le Seigneur, le corps du Seigneur ne s'est jamais corrompu. Il n'a pas connu la mort, la destruction, l'œuvre de la mort dans son corps. Et nous, croyants, par contre, quand bien même nous mourons, et laissez-moi préciser, quel que soit l'état de dégradation, voire de séparation, voire de dislocation de notre corps, Nous vivons malgré tout par la foi dans l'espérance de la rédemption de nos corps. Au jour de la résurrection, le Seigneur ressuscitera nos corps. La résurrection n'est pas spirituelle. Paul insiste bien, elle est corporelle. Même s'il parle d'un corps spirituel, le corps spirituel, c'est le corps que nous avons qui sera transformé par le Saint-Esprit. Et rassurez-vous, votre corps sera glorieux, magnifique, et tous les défauts qu'il peut avoir aujourd'hui, vous ne les aurez plus. Mais nous aurons un corps. Je le dis bien, quel que soit l'état de dislocation, l'état de destruction, l'état de séparation de notre corps au moment de notre mort, le Seigneur le ressuscitera. Pensez donc, quelqu'un qui est mort maintenant, un des pères de la foi il y a 2000 ans, dans quel état est son cadavre ? Le Seigneur le ressuscitera. Quand bien même des frères sont morts sur les bûchers de l'Inquisition, brûlés jusqu'au dernier atome, le Seigneur restaurera leur corps. C'est la puissance de Dieu. Et nous vivons dans cette attente. Alors ça, c'est le corps et maintenant le souffle de vie. Vous vous rappelez quand Jésus meurt ? Il expira. Et il rendit son souffle au Seigneur, son esprit au Seigneur. Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était son souffle de vie qui est retourné auprès du Père. Et l'Ecclésiaste nous enseigne que le corps appartient à la création, mais l'esprit, le souffle de vie, le don de Dieu, retourne vers lui au moment de la mort. Ecclésiaste 12:9, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà pour le corps, voilà pour l'esprit. Et l'âme ? Et l'âme alors ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, c'est elle qui se retrouve dans ce qu'on appelle la situation intermédiaire. Elle est dans l'attente du jugement final de toute chose. Et l'âme qui est née de la fusion du corps, de la rencontre du corps et de l'esprit et du souffle de vie a gardé de chacun des caractéristiques. Du souffle de vie, l'âme, du souffle de vie de Dieu, l'âme de tout homme conserve en elle l'immortalité éternelle. Et c'est vrai pour tout homme, pécheur comme chrétien, j'insiste bien. Les païens aussi ont une âme immortelle. Ça, c'est la marque de Dieu sur l'humanité. Mais du corps, elle en conserve aussi une dimension limitée et son impossibilité à pouvoir se hisser par elle-même dans le salut éternel. Elle est à la fois éternelle, mais parce qu'elle est liée à la création et au corps, elle ne peut pas par elle-même accéder à la vie éternelle auprès de Dieu. Et sa destinée, à la fois éternelle, mais même déjà sa destinée intermédiaire entre le temps de la mort et de la résurrection, dépend de l'élément constitutif qu'il aura emporté sur l'autre durant la vie de la personne. Autrement dit, l'homme aura-t-il été quelqu'un dominé par son corps, donc quelqu'un resté attaché à la création ? Or, la création est sous la malédiction et l'œuvre du péché et de la mort. Et si donc l'âme est restée dans ce domaine-là, elle va avoir telle destinée, nous allons le voir. Mais si l'âme du vivant, de son, on va dire du vivant de l'homme, a été au contact de la nouvelle naissance, alors l'esprit de l'homme l'a emporté sur le corps, et pour elle, c'est la promesse d'être auprès du Seigneur. Alors, après avoir dit ces premiers points, maintenant, voyons ce que la Bible nous enseigne concernant l'état intermédiaire, ce qui se passe donc entre la mort et jusqu'à la résurrection. D'abord un peu de terminologie, ça va nous permettre de clarifier les choses. Vous connaissez certainement ces mots, vous en avez entendu parler. Il y a deux mots, un en hébreu, un en grec. En hébreu, il est question du Sheol. Le Sheol est utilisé plus de 65 fois dans l'Ancien Testament. C'est le mot hébreu qui désigne donc l'endroit où l'âme va après la mort physique, le Sheol. Et puis, il y a l'Hadès. Hadès, c'est le mot grec. Il y a un dieu grec qui s'appelle Hadès. Ces deux mots désignent la même chose, dans deux langues différentes, ce que nous, nous avons appelé en français le séjour des morts. Séjour des morts, Sheol, Hadès, c'est le même lieu, le lieu où vont les âmes de ceux qui sont morts. Tournons-nous maintenant vers la parabole, si on veut l'appeler comme ça, du riche et de Lazare. Cette histoire est très particulière. On ne peut comprendre cette histoire que si on se souvient d'abord qu'elle a un contexte très précis, suite à une conversation avec les pharisiens, et donc un contexte juif. Elle nous surprend, cette histoire, parce que dans cette histoire, le pauvre va, on va dire, dans un endroit de repos, Saint-Abraham, et le riche va dans un lieu de tourment. Et on a l'impression que, d'une certaine manière, on pourrait se dire, mais c'est une stigmatisation de ceux qui sont riches, et donc ceux qui sont riches, bon, hein, et s'il faut être pauvre pour gagner... Non, c'est pas en étant pauvre qu'on gagne le salut, et c'est pas en étant riche qu'on le perd. Simplement, il y a un contexte où Jésus s'adresse aux pharisiens, juste avant, où il est question justement d'argent et d'avarice. Or, pour les pharisiens, la prospérité matérielle était un signe d'approbation divine. Tandis que la pauvreté était un signe de malédiction divine. Donc pour eux, quelqu'un qui prospérait était forcément quelqu'un qui était approuvé de Dieu et qui héritait des bénédictions éternelles, tandis que l'autre forcément était perdu. Et si Jésus justement prend les choses à l'envers, c'est parce qu'il sait qu'il a affaire à des pharisiens qui pensent exactement comme ça. Donc c'est surtout un texte un peu pour les provoquer, hein, qui renverse tout. La question est de savoir, est-ce que là, Jésus est dans une parabole, Jésus est dans une histoire, est-ce que là, Jésus nous donne une doctrine ? Dans une parabole, il ne faut surtout pas chercher de la doctrine. Dans une qu'une parabole, il a la doctrine. Si vous cherchez la doctrine du salut dans la parabole du fils prodigue, vous allez avoir de gros problèmes. Parce qu'il manque l'élément essentiel, le sang de Jésus-Christ. Donc il ne faut surtout pas utiliser une parabole à titre de doctrine pour enseigner telle ou telle chose. Et c'est pareil, cette parabole-là, cette histoire n'est pas forcément là si c'est une parabole pour nous dire ce qu'est doctrinalement le séjour des morts. Mais en même temps, ok, ce n'est peut-être pas un enseignement, mais si Jésus dit ces choses, on a du mal quand même à concevoir que Jésus aurait dit des choses qui ne soient pas vraies. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, ce n'est pas un texte de doctrine, c'est comme si Jésus levait le voile. Et il nous fait une description de certaines choses. Sans rentrer dans tous les détails, sans expliquer tout, il nous dit un peu ce qui se passe. Mais il l'utilise pour essayer de... Enfin, dans sa discussion avec les pharisiens. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette parabole? Ou dans cette histoire? Difficile à savoir quel mot il faut retenir. Il nous dit donc que Lazare, le pauvre, a été transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et que le riche a été enseveli et qu'il se retrouve dans un lieu de tourment. Ce qu'on note, c'est que même s'il y a une séparation, Abraham le dit, les deux sont quand même en connexion l'un avec l'autre. Ils sont en connexion, quelque part, même s'il y a séparation, parce que celui qui est en bas arrive à voir celui qui est en haut. Donc ça veut dire que ce n'est pas un qui est là et un autre qui est à l'opposé. Ils sont séparés, mais ils sont quand même dans un certain ensemble. D'accord ? Tout ça pour vous dire que ce dont il est question ici, ce n'est pas de l'enfer du jugement dernier et du ciel de l'éternité. Parce que le ciel, la vie éternelle auprès de Dieu, et l'enfer, là où Satan sera, il n'y a rien en commun. Vous comprenez ? Là, on est dans autre chose. On est dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Et on apprend donc que dans ce séjour des morts, il y a trois parties, trois étages, qui forment un tout, tout en étant, en quelque sorte, séparés. Il y a le plus haut niveau que Jésus appelle le sein d'Abraham. Et dans ce sein d'Abraham, en hébreu « avot », qui vient du mot « père », il y a le pauvre Lazare. Et lui a trouvé là le repos. Et il y a un séjour des morts tout en bas, qui est un lieu de souffrance, un lieu de tourment, comme le décrit le riche. Cet endroit en bas est séparé donc par un gouffre. Et Abraham dit, il n'y a pas moyen de passer de l'un à l'autre. Vous comprenez les implications théologiques. Il n'y a pas de possibilité de changer après la mort. Il n'y a pas possibilité pour l'un d'en bas de passer en haut ou un d'en haut de tomber en bas. Il y a un cloisonnement très, très strict. La partie en bas est appelée de différentes manières dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Par endroits, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 22, elle est appelée le fond du séjour des morts. Dans Luc 8, 31, elle est appelée l'abîme ou l'abysse, les abysses. Dans Apocalypse 9, le puits de l'abîme. Dans 2 Pierre 2, Pierre parle d'un truc un peu particulier, le Tartarus. Alors là, il fait référence à la culture, une culture orientale, le Tartarus, un endroit un peu perdu. Ou alors, l'abîme de ténèbres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui est clair, c'est que cet endroit en bas, tout en bas, c'est une place de tourment. Au point que dans Luc 8, 28, un possédé vient se jeter auprès de Jésus, il lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et plus loin, c'est l'histoire du possédé de Gadara, les démons vont prier instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ils ne veulent pas y descendre, parce que ce n'est pas encore le temps de leur tourment. Même les démons ne veulent pas y aller. Vous voyez donc maintenant, là, le séjour des morts, qu'est-ce que nous avons dit ? Ce n'est pas l'éternité. Je vais y revenir, c'est un point très important. Je reviens dans un instant. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les âmes des morts entre la mort et la résurrection. Jésus nous enseigne, en confirmation de certaines choses de l'Ancien Testament, qu'il y a donc deux grandes parties, supérieures, le sein d'Abraham, où les justes se retrouvent, et inférieures, le puits de l'abîme, où les injustes, les méchants, sont envoyés. D'accord ? Ça s'est posé, et ils sont séparés l'un de l'autre par un gouffre. Je reviens sur ce point. Le séjour des morts n'est pas l'enfer final. L'enfer aujourd'hui est fermé. Il n'y a personne en enfer. Ce qu'on pourrait appeler la géhenne, l'étang de feu dans l'Apocalypse est fermé. Il n'y a personne. Qui seront les premiers à y aller. Non. Le faux prophète et l'antichrist. Ce sont les deux premiers qui sont jetés après la grande bataille de l'Armageddon dans les temps de feu. Ils vont y rester longtemps tout seuls. Le troisième à les rejoindre, ça sera Satan. à la fin des temps. Et puis ensuite, tous ceux qui n'auront pas eu leur nom trouvés inscrits dans le livre de vie. Et alors la Bible nous dit même dans l'Apocalypse que même le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Alors, je dis simplement ceci parce que le credo catholique romain dit « Christ est descendu aux enfers ». Et dans la doctrine catholique romaine, il y a beaucoup de confusion entre le séjour des morts et les enfers. Et même des fois, ça nous... Non, Christ n'est pas descendu aux enfers. On va le voir, ça sera la prochaine fois, exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Mais Christ est descendu dans le séjour des morts intermédiaire. D'accord ? Parce que l'enfer tel qu'on le conçoit, la Géhenne, est fermé. Est fermé. Dans le séjour des morts intermédiaire, la Bible nous dit ceci, Dieu y est présent. Dieu y agit. Job 26, versets 5 et 6, « Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. » Dieu voit ce qui se passe dans le séjour des morts. Et le psaume 139, verset 8, David dit, « Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Dieu agit dans le séjour des morts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs une grande différence entre le séjour des morts intermédiaire et l'enfer, la Géhenne. Parce que quelle est la première caractéristique de la Géhenne, de l'étang de feu ? Privé de la présence de Dieu. L'enfer est le seul endroit, la Géhenne, où Dieu ne sera jamais présent. Le seul endroit où il ne sera jamais présent. Tandis que dans le Sheol, le séjour des morts, Dieu y voit et Dieu y agit, Dieu peut y aller. Jésus y est descendu. Et d'ailleurs, c'est sur cette espérance que reposait la foi des anciens lorsqu'ils mouraient. Je vais y revenir à la fin de ce premier message. Alors, juste un instant, parlons maintenant des habitants du séjour des morts. Drôle de façon d'appeler ceux qui y sont les habitants. Mais bon, il y en a, ça fait tellement longtemps qu'ils y sont qu'ils ont pris leur quartier. D'abord, toute l'humanité perdue. Psaume 9, verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin du millénium, alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais avant les temps de l'éternité, tous ceux qui n'auront pas cru sont réservés pour le jugement dernier dans le séjour profond des morts. 2 Pierre 2, 9. Le Seigneur réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, quand quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, et quand je dis ça, j'étends aussi à l'Ancien Testament. On va me dire, mais vous ne pouvez pas croire en Jésus. Hein, vous ne croyez peut-être pas en Jésus, mais croyez dans les promesses de Dieu. Même sans les voir. Parce que ce n'est pas par la loi que quelqu'un a été sauvé. La loi n'a jamais sauvé quelqu'un, mais c'est toujours par la foi. Oh, il ne pouvait pas avoir la même connaissance que nous. Mais n'empêche qu'ils étaient appelés à placer leur foi dans la promesse de Dieu. Et ceux qui ont cru dans les promesses du Seigneur, ceux-là étaient préservés. Mais tous ceux qui n'ont pas cru, à leur mort, le corps a été mis dans la tombe, ou peu importe ce qu'il est devenu, le corps. Mais le souffle de vie est retourné à Dieu, mais l'âme, elle, comme celle du riche, a été plongée jusqu'au plus profond du séjour des morts. Et elle est dans l'attente. J'ai lu le texte de Pierre, le Seigneur réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Elle est dans l'attente du jugement dernier. Maintenant, donc l'humanité perdue, maintenant ceux qui ont cru. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je dis qu'est-ce qui leur est arrivé ? Parce que là, il faut considérer que ce que je dis ce soir, c'est avant la résurrection de Jésus. Parce que tout a basculé quand Jésus est descendu dans le séjour des morts et qu'il en est remonté vivant. Là, je me place avant la résurrection de Jésus. Avant que Jésus ne descende dans le séjour des morts, à part Enoch et Élie, les seuls qui n'ont pas vu la case mort, mais qui sont partis directement au ciel, tous les autres justes, leur corps a été mis en terre, peu importe, leur esprit souffle de vie retourné au Seigneur, et leur âme est allée reposer, c'est vraiment le verbe qui doit s'inscrire, reposer dans le séjour des morts supérieurs appelé le sein d'Abraham. Genèse 25,8, Abraham expira, il mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Voilà, recueilli auprès des siens. Il est dans ce séjour. Il y a une autre catégorie, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les démons. Quand les démons sont chassés dans le nom de Jésus, ils sont jetés dans le puits de l'abîme. D'ailleurs, c'est une grande différence entre les sorciers et Jésus, ou ceux qui chassent les démons dans le nom de Jésus. Les sorciers, que font-ils? Ils font circuler les démons. N'est-ce pas? Ils les transfèrent, ils négocient. Ils négocient le déplacement des démons. Jésus ne négocie jamais le déplacement des démons. Quand Jésus intervient, il brise la chose, et comme les démons le crient, ne nous tourmente pas, ne nous envoie pas, dans le puits de l'abîme. Jésus les a envoyés dans les cochons qui ont fini dans l'eau et se sont retrouvés au puits de l'abîme. Donc ça a été tout réglé. Les cochons et les démons. Donc, tous les démons qui sont chassés dans le nom de Jésus vont dans le puits de l'abîme. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas commencer, quand on chasse un démon au nom de Jésus, il ne faut pas commencer à négocier avec lui, hein. Jésus ne négociait jamais. Et alors, le livre de l'Apocalypse nous dit au chapitre 9, c'est l'un des malheurs, c'est que viendra un moment pendant la grande tribulation, et je vous laisse imaginer la chose, où le puits de l'abîme va être ouvert. Et tous les esprits démoniaques qui sont là-dedans vont être relâchés. Et c'est là qu'il est question de ces sauterelles. Vous relirez le passage d'Apocalypse 9. Un temps terrible. Un temps où les gens vont souffrir énormément. Ils vont sortir on ose imaginer, oui, des sauterelles qui ont un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc à un moment, ils vont sortir. Je ne sais pas s'ils vont tous sortir, ça, la Bible, l'Apocalypse l'évoque, mais. Enfin, maintenant, la question, c'est Satan. Satan est-il en enfer? Dans l'enfer, la Géhenne, on a dit non. Satan est-il dans l'Hadès, avec les autres démons? En train de faire cuire les gens dans sa marmite avec sa fourche. C'est terrible, un christianisme qui en est réduit à de telles images. Mais peut-être, vous savez, des fois on a ce genre de conception, et ce soir, si je le dis en rigolant, c'est pour créer un petit choc, pour essayer d'enlever ces images. Alors, là, évidemment, je ne veux pas affirmer d'une manière doctrinale, ce sont des pensées que je partage avec vous, je ne suis pas sur un terrain doctrinal. Il peut y avoir d'autres interprétations, je vous propose celle-là. J'essaie qu'elle soit cohérente, mais il y a peut-être des failles dans mon raisonnement, je l'admets. La Bible nous dit dans Apocalypse 9 que celui qui a la souveraineté sur le puits de l'abîme s'appelle Apollyon. Dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 15:11, il s'appelle Abaddon. Le séjour des morts et Abaddon sont devant l'Éternel. Est-ce qu'Abaddon et Satan sont la même personne? Là, c'est une question. Vous me direz, ça ne va pas changer grand-chose à la fois. Mais bon, puisqu'on est en train d'y réfléchir, essayons de voir ce qu'on peut essayer de tirer tout ça. Éphésiens 2,2 nous dit que Satan est le prince de la puissance des airs. Il est aussi celui qui, avant sa défaite devant notre Seigneur, avait la puissance de la mort. Or, la mort, ce n'est pas le séjour des morts. La mort, c'est ce qui prépare au séjour des morts. La mort, c'est parmi les vivants. C'est la porte d'entrée au séjour des morts. Jésus a vaincu Satan et lui a enlevé cette puissance. Ce que je comprends de ces textes, c'est que Il me semble que Satan agit au niveau de la création, parmi les hommes vivants, je veux dire parmi les vivants, et non pas parmi les morts. Et que celui qui règne sur cet endroit du puits de l'abîme, c'est Abaddon, et Abaddon pourrait être une puissance spirituelle différente de Satan, mais je ne veux pas aller à l'affirmer à 100%. Je me rappelle aussi que dans Apocalypse 20, au tout début du règne des 1000 ans, il est écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, etc., jusqu'à ce que les 1000 ans, oui, fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc je comprends que c'est au début du millénium qu'un ange puissant saisit Satan et l'envoie dans le puits de l'abîme. Ce qui laisse penser qu'il n'y était donc pas avant. Et à mon avis, si les autres démons n'ont pas envie d'y aller, lui n'a pas envie d'y aller non plus. À la fin des 1000 ans, Satan sera relâché. Il est écrit, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Sa nature n'aura pas changé. Captif pendant 1000 ans, il sera plein de colère. On sait qu'il va fomenter une dernière révolte. Et c'est là que le Seigneur va le prendre et il va être jeté dans les temps de feu. Alors, surtout, ça nous confirme que Satan, il ne sera pas en train de faire cuire les gens dans la marmite, il sera dans la marmite. Il sera dans la marmite. C'est pour ça que je dis ça, attention, parce que je sais, il y a des textes qui circulent sur certaines visions de l'enfer. Et dans ces textes-là, on a l'impression que les démons et les puissances spirituelles sont celles qui organisent un peu les trucs. Mais attention, les démons en enfer brûlent comme les autres. Ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller. Ce sera la même chose pour les uns comme pour les autres. Et je vous rappelle ceci, Matthieu 25, 41, c'est Jésus qui le dit. Que le feu éternel... Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et les démons. Dieu n'a aucune envie d'envoyer les hommes en enfer. Ce que Dieu veut, Paul nous le dit, c'est le salut de tous les hommes et que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il se trouve qu'il y a des hommes qui refusent d'entendre le message de Dieu et qui continuent à vivre en se révoltant contre le Seigneur, et ils vont suivre le prince de la révolte jusque dans l'éternité, jusqu'en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur veut nous délivrer de la colère. Il veut nous délivrer de l'enfer, et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Quelques instants, parlons des caractéristiques d'existence dans ces jours des morts. Et là, on touche un problème très épineux. Certains enseignent que après la mort, l'âme est détruite. Et il refuse la notion d'immortalité de l'âme. Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. L'âme demeure. Elle est dans un état particulier. Et dans ces jours des morts, elle est désincarnée. Elle n'est plus dans un corps. Elle est désincarnée. Mais elle reste consciente. C'est ce que dit le riche. Le riche voit, il souffre. Il dit, mais comment peut-il souffrir s'il n'a plus de corps? D'abord, l'âme peut souffrir. Et puis, vous savez, même désincarné, même lorsque quelqu'un a perdu un membre, il y a toujours le souvenir. Et je pense qu'il restera quelque chose à l'âme du souvenir du corps. Et l'endroit dans lequel elle sera, elle souffrira par rapport à la situation qui est là et par rapport à tous les souvenirs. Et l'âme dans le séjour des morts, que ce soit dans l'abîme ou que ce soit parmi les justes, gardera un souvenir des choses passées. Elle restera consciente de l'environnement. C'est pour ça que le riche dit qu'il est dans des tourments. Les prophètes de l'Ancien Testament disent la même chose aussi. Dans Ésaïe 14, il est question de la chute du roi de Babylone, le fameux Lucifer, astre brillant. roi de Babylone, mais au-delà du roi de Babylone, il y a déjà une annonce prophétique de la chute de Satan. Et à la fin, on le voit, il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre ? Il y a une question de conscience là, puisqu'ils peuvent se voir. Ceux qui sont dans le séjour des morts profonds se voient, donc ils sont conscients. Ça veut dire, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ils sont conscients de ce qui se passe. Et les justes, Lazare, le pauvre, mais ils sont dans un état de repos, dans le sein d'Abraham. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cet état de repos ? Pourquoi m'as-tu troublé ? Qui dit ça ? Samuel. Dans quelles circonstances ? La sorcière d'Endor, que Saül va consulter. Elle veut faire monter. Et elle fait monter Samuel. Elle ne fait pas monter Samuel. Dieu permet que Samuel monte. Dieu permet que Samuel monte. Mais c'est une pratique strictement interdite par la loi. Deutéronome 18:11, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. C'est une pratique spirite qui met en contact avec des esprits démoniaques. Dieu a permis que Samuel monte, mais malgré tout, à cause de ça, Saül a été frappé de mort. 1 Chronique 10-13, Saül mourut parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ça me permet de vous dire que donc nous n'avons pas à établir un contact avec les morts, même si ce sont des chrétiens. Ils sont dans le repos. Laissons-les dans le repos. Ils ne nous entendent pas, ils ne nous voient pas. Ils sont dans avec le Seigneur. C'est encore mieux que le sein d'Abraham, on le verra la prochaine fois. Alors, dans le sein d'Abraham, ils y étaient, mais malgré tout, les textes de l'Ancien Testament ne comparent pas le sein d'Abraham à un paradis. Ils étaient là et ils étaient malgré tout comme captifs. Ils ne pouvaient pas en sortir. Ce n'était pas un lieu de réjouissance. C'était un lieu de repos. C'était un lieu d'attente. Et les prophètes, ou ceux qui ont fait face à la mort, par exemple le roi Ézéchias, quand il se tourne vers son mur, qui sent que la vie va lui échapper, comme lui a annoncé le prophète Ésaïe, va pleurer devant Dieu en lui disant « Mais ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. » Et donc, ils avaient bien conscience que le séjour des morts était là, ils iraient dans le sein d'Abraham, mais ce n'était quand même pas un lieu de réjouissance. D'ailleurs, les anciens, vous verrez combien c'est important la prochaine fois, il faut que je réserve mes effets pour la prochaine fois, mais ils parlaient de descendre, même les justes, ils descendaient dans le séjour des morts. C'est Jacob qui le dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Jacob le juste, je descendrai. Vous voyez l'idée de, donc, c'est pas une grande joie. On descend, c'est un lieu d'attente. Descendre, tiens, chose intéressante. Descendre, faut-il comprendre que le séjour des morts est sous terre ? Jésus dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce qu'il faut prendre ça d'une manière littérale ? Ou est-ce que c'est encore une portée symbolique et spirituelle ? Je ne vais surtout pas trancher, mais des textes semblent évoquer que le séjour des morts pourrait être au sein de la terre. Mais là, je ne vais certainement pas trancher la question. Je finis maintenant en ouvrant la porte à ce que nous verrons la semaine prochaine, les habitants et leur délivrance, ce qui vient au bout du séjour des morts. Après la mort, l'état intermédiaire, à la fin de l'état intermédiaire, la résurrection et l'éternité. Et donc on va se placer à ce moment de la résurrection. Qu'est-ce qui se passe pour les impies, pour tous ceux qui sont dans le séjour des morts profonds, dans le puits de l'abîme? Eh bien, pour eux, aucun espoir de rachat, de délivrance finale. C'est du vivant que l'éternité se décide, c'est du vivant que l'état intermédiaire se décide. Le psalmiste a cette déclaration, c'est une déclaration très froide, psaume 31:18, il dit « Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. » Dieu ne les entend plus. Leur sort est réglé. Les fils de Corée écrivent dans psaume 49:15 « Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. » Et puis Abraham dit aux riches qu'il y a un gouffre qui les sépare de sorte qu'aucun ne peut aller de l'un vers l'autre. Et déjà, vous sentez bien quelle réfutation de doctrine on tire de tout cela. Bien sûr, c'est le refus du purgatoire. L'éternité est scellée à partir de notre vie, des choix de notre vie. L'état intermédiaire confirme ce qui s'est passé du vivant et il n'y aura aucun changement. Aucun changement. Vous me direz, mais Christ n'est-il pas descendu dans le séjour des morts? Nous verrons ce qu'il en est exactement. Il est allé prêcher, oui, mais à qui? À qui? À ceux du bas ou à ceux du haut? Où Christ est-il allé quand il est mort? Il est allé dans le sein d'Abraham, dans la vôtre, mais il n'est pas allé en bas. Et les justes? Alors là encore, je reste dans l'ancienne alliance, avant Jésus. Hébreux 11:13 nous dit qu'Abraham est mort sans voir les promesses s'accomplir. Et c'est très intéressant. L'apôtre écrit « Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Hébreux 11, 39, 40. « Tout cela, la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Abraham recherchait la cité de Dieu. Il est mort sans l'atteindre, mais il est mort dans la foi. Dieu a permis qu'Abraham atteigne Canaan, mais Dieu ne lui a pas ouvert les portes de la cité céleste. Parce qu'il n'était pas possible qu'Abraham arrive avant nous dans la cité de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'il parvienne à la perfection avant nous. Et ils sont donc dans l'attente. Avertis ou conscients d'un temps d'attente avant l'accomplissement de la promesse, en était-il conscient? Peut-être. Savait-il qu'il y aurait ce temps d'attente? Peut-être. Mais en tout cas, Abraham et les justes sont morts dans la foi. Et sont morts pleins d'espérance. David écrit psaume 16:10, bien sûr c'est un psaume messianique, mais je crois qu'il l'écrit pour lui aussi. « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Et les fils de Corée disent « Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. » Et ils sont morts dans cette foi-là. Et celui qui l'exprime le mieux, c'est Osée. Je vous invite à prendre ce texte. Osée 13, 14, il est important parce que Paul le reprend dans 1 Corinthiens 15, dans le chapitre sur la résurrection. Et ça, ça nous parle de toute la foi des anciens, de tous ceux qui sont morts avec l'espérance de la cité de Dieu, mais qui ne pouvaient pas l'atteindre, parce qu'il est impossible qu'ils l'atteignent avant nous. Voilà ce qu'Osée a écrit de la part du Seigneur. C'est Dieu qui parle. « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta paix? Séjour des morts, où est ta destruction ?» Et ils sont morts là, dans l'attente, un jour, d'être délivrés. L'apôtre Paul est à Antioche et devant l'assemblée des Juifs, il va dire ceci, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous en ressuscitant Jésus. Quelle promesse ! Celle que Dieu les sauverait du séjour des morts. Celle qui les délivrerait de la mort. Et Christ n'est pas descendu dans le séjour des morts vaincu. Il est descendu en conquérant. Qu'avait-il dit à Pierre ? Que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église. Et quand le Seigneur est descendu dans le séjour des morts, telle la parole de Dieu vivante et créatrice. Il est allé voir celui qui tenait les clés du séjour des morts. Il a dit, ces clés, c'est moi qui les prends maintenant. Il a regardé la porte du séjour des morts et il lui a donné un grand coup de pied. Il l'a arraché de ses gonds et il a dit à tous ceux qui étaient là, depuis Abraham, à ceux qui l'ont précédé et à ceux qui l'ont suivi, suivez-moi. Et qu'en est-il aujourd'hui? Point de suspension. Sinon de vous dire que le sein d'Abraham est vide. Vide pour l'éternité. Nous parlerons la prochaine fois de ce que Jésus a fait. Ça sera un peu plus court, alors on essaiera d'apprendre un temps pour quelques questions. Je ne prétends pas avoir la prétention de répondre à toutes les questions, mais si vous avez peut-être des choses à poser, parce que ce n'est pas souvent qu'on aborde ce genre de sujet, eh bien on essaiera de trouver le temps de pouvoir partager ensemble. Mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu des vivants. C'est ce qu'il est écrit dans ta parole. Le Dieu des vivants, Abraham, Isaac et Jacob, Seigneur, sont vivants devant toi, et pas le Dieu des morts. Et ceux qui se confient en toi, Seigneur, peut-être corporellement nous paraissent-ils morts, mais spirituellement ils sont vivants devant toi. Seigneur, tu nous donnes ces trois choses. Tu as d'abord donné la vie à notre âme, à la naissance. Et puis tu as donné la vie à notre esprit, à la nouvelle naissance. Et puis, à la résurrection, tu donneras vie à nos corps. Alors Seigneur, nous ne voulons pas craindre la mort. Tu as vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Et il est écrit que la loi de l'esprit de vie nous a délivrés de la puissance du péché et de la mort. Et Seigneur, si nous partageons ces choses ce soir, ce n'est pas simplement pour essayer d'augmenter notre connaissance, bien que la connaissance soit importante, parce que nous ne voulons pas penser ou croire n'importe quoi. Mais en même temps, Seigneur, le but de tout cela, c'est d'affermir notre foi. Et de nous donner de la force pour faire face à toutes les épreuves de la vie, les plus difficiles, peut-être la mort elle-même. Parce que Seigneur, nous ne pouvons dire, ô mort, Où est ta peste? Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu et nous ne te craignons point. Seigneur mon Dieu, merci pour la promesse de la cité céleste. Tu n'as pas voulu qu'Abraham et tous les pères de la foi y parviennent avant nous parce que c'est le lieu de la perfection. Alors ils sont dans un état de repos, dans l'attente. Seigneur, nous ne savons pas si nous devons nous aussi attendre ou si tu nous prendras. Mais nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons confiance en toi. Merci Jésus pour ce moment. Et que ce soit, Seigneur, un moyen de nous encourager. Et puis un moyen de nous consoler. Parce que si un proche est mort dans la foi, nous savons que tu es le Dieu des vivants. C'est notre consolation. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis mardi prochain, Dieu voulant, on continuera et on parlera de Jésus.